franceinter.fr.
Bonjour, je m'appelle Frédéric Mitterrand, j'ai 35 ans et ça fait 12 ans que je voyage. Je voyage dans un continent immense et mystérieux qui s'appelle le cinéma.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una, R, 2, V.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una, R, 2, V.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
L'éducation, la crise économique, le cartel de Medellin, le trafic d'armes, mais aussi des adolescents, beaucoup blessés, amoureux, battus, chanteurs, fugueurs. Bref, l'Amérique d'aujourd'hui, filmée par les cinéastes de demain. Nous sommes à Deauville, au 42e Festival du film américain, depuis l'hôtel Normandie Barrière. Bonjour tout le monde! Heureuse vraiment de vous retrouver. Et merci Laurent d'avoir si bien gardé la boutique tout l'été. Salut à vous.
J'ai gardé les clés. Bonjour Christine, welcome évidemment ici à tous et à toutes.
Il a été exploitant, acteur, scénariste, cinéaste, ministre. Et enfin président. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Mais oui, quand on est ministre, on aspire à être président.
Président de ce gouvernement jury qui respecte presque la parité, 4 femmes, 5 hommes, et parmi eux, oui. Eric Elmosnino, acteur, grand acteur. Bonjour Eric.
Bonjour madame.
Ensemble, vous allez regarder. Vraiment, hein.
Ensemble... Parce qu'on est auto-normand,
ouais,
c'est pour ça.
Ouais. Ensemble, vous allez regarder 14 films reflets de la production indépendante US. Les Américains aiment les histoires vraies. Alors, juste après vous, nous recevrons un héros de la vraie vie, Robert Mazur, celui qui a inspiré l'Infiltrator, présenté en ouverture hier soir à Deauville. Lui est écossais, mais il a réussi à filmer une histoire profondément américaine. David Mackenzie avec Comancheria. Les Indiens sont bien loin. Et enfin, comme il n'y a pas que Deauville, dans la life, nous passerons en revue 4 films sortis ce mercredi de rentrée. Frédéric Mitterrand, Eric Elmosnino. Vous avez envie de quoi devant ces 14 films? Est-ce que vous avez envie, par exemple, qu'ils vous racontent l'Amérique d'aujourd'hui?
L'Amérique d'aujourd'hui, on la connaît un petit peu quand même, parce qu'on passe son temps à regarder des actualités, à lire des livres et des journaux. Non, on a envie surtout qu'ils nous parlent des sentiments et des sentiments qu'on éprouve. Là, je deviens très très sérieux. Là.
C'est bien, il faut.
Non, mais c'est vrai, on a envie d'avoir des films qui nous parlent de sentiments. Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est ce que je ressens. Oui, voilà, c'est ça, des sentiments.
Et pourtant, je le disais, beaucoup de films américains, Eric Elmosnino, sont inspirés d'histoires vraies. C'est un plus pour vous, ou vous êtes indifférent?
Oui, j'imagine que ça donne quand même une dimension, toujours de penser que ces histoires ont existé, que ces gens-là qu'on voit à l'écran ont été des vraies personnes qui ont vécu ça. Donc ça donne toujours une espèce de dimension quand même, le côté véridique de la chose.
J'aime bien ce que dit Eric sur les vraies personnes.
Les vraies personnes.
On passe son temps à croiser des fausses personnes.
Où ça?
Les vraies personnes.
Des noms.
Des vraies personnes.
Mais par contre, je ne sais pas là, dans tous les films qu'on va voir, si tout est inspiré de faits
réels. Non,
certains.
Pas.
Voilà, certains.
Celui qu'on a vu hier soir pour l'inauguration. Était quand même assez impressionnant sur un type qui arrive à s'infiltrer parmi les trafiquants.
Je souris parce que je pense à la vanne que vous avez fait avant sur l'infiltré d'hier soir.
Il paraît que l'infiltré était dans la salle.
C'était qui?
Mais je suis tourné vers Anne Dordano, j'ai dit c'est vous l'infiltré? Et elle m'a dit oui.
Non, il était bien dans la salle. On va d'ailleurs l'écouter un peu plus tard.
Il va venir ici?
Non, il ne peut pas. Il ne peut pas se montrer.
Parce que vous allez
pas
se faire descendre.
Il sera là, mais, mais comme on est à la radio, il n'est pas filmé. Ouais. Est-ce que les acteurs américains sont des modèles pour vous, Eric Elmosnino? Je sais que vous aimez certains acteurs américains, notamment Steve McQueen.
Ah, j'adorais ça, Steve McQueen. Et ça, c'était quand même la coolitude totale.
Mais qu'est-ce qu'ils ont?
Pas un acteur, même maintenant, qui a cette espèce de charme, de désinvolture. C'était vraiment un fantasme absolu. Ouais. C'est toujours d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'ils ont de différent de vous, les acteurs
qu'ils
américains?
Ils ont de différent, plus de moyens peut-être.
Ils gagnent plus d'argent.
Non, il y a des grands. J'imagine, mais il y a des grands acteurs américains comme il y a des grands acteurs italiens, espagnols. Enfin, c'est pas le problème. Mais je sais même pas si on peut. Moi, je me souviens que le premier choc, moi, c'était Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Donc bon, tu vois. Après,
peut-être qu'il y a une relation avec les réalisateurs qui est différente. différente. Parce que quand on regarde les films d'hier, moi, je ne reconnaissais aucun des acteurs. Voilà, c'est simple. Et je les ai trouvés tous absolument inouïs. Et donc, je pense que c'est parce qu'il y a un temps de répétition, de travail avec les réalisateurs, que nous nous accordons peut-être pas autant dans le cinéma français.
Oui, mais c'est ça, quand je disais plus de moyens aussi, je pense que ça paraît un peu idiot, mais c'est vrai.
Hier soir, Deville consacrait une toute jeune actrice de 19 ans. J'ai pensé à vous à ce moment-là, Frédéric Mitterrand,
Oui,
Chloé Grace Moretz.
Oui, moi je suis une jeune actrice de 69 ans.
Non, mais vous qui avez connu, qui adorez les stars, vous avez
vu. Oh, j'adore les stars, c'était une maladie.
Qu'est-ce que vous avez vu chez elle?
Qu'est-ce que j'ai vu
chez
elle?
C'est une enfant star, elle a commencé à 5 ans, cette fille.
Oui, elle a commencé comme Shirley Temple.
Oui, exactement.
Et d'ailleurs, c'était terrible. Le premier extrait qu'on voit, c'est assassiné
par Nicolas Cage. Ouais.
C'est horrible.
Incroyable. Elle a l'air d'avoir quelque chose quand même.
Oui,
efficace.
Oui. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a? Elle a cette chose incroyable. Elle a un visage d'enfant encore, sur un corps un petit peu replé. Et un professionnalisme incroyable. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup avec les gens du spectacle, et notamment de la politique en Amérique, c'est qu'ils surjouent toujours un peu. Surjouent l'enthousiasme. Quand vous voyez Hillary Clinton, enfin, moi, j'ai jamais vu, mais quand vous la voyez, vous avez l'impression que vous êtes la personne la plus importante, que c'est l'histoire de sa vie, que c'est extraordinaire, et tout ça. Et avec ce truc aussi que, quand elle arrive dans une salle, elle reconnaît toujours quelqu'un au 15e rang. Salut, Elisabeth. Elisabeth, il y a toujours une Elisabeth. Salut Elisabeth, oui. Toujours une Elisabeth quelque part. En fait, forcément, c'est un truc de fou. Et donc, il se surjoue. Et la jeune fille d'hier soir, qui est incroyablement talentueuse.
Chloé Grace Moretz.
Incroyablement talentueuse. Ouais. Ben, elle a tendance, hier soir, à surjouer un peu. L'émotion, le truc, c'est comme si elle avait tout d'un coup, elle venait d'être emportée par Tarzan, découvrir à Deauville, dans la jungle de Deauville, le plus grand des plaisirs.
Tous les deux, donner un prix, c'est un enjeu très important. Vous le considérez comme tel, Eric Elmosnino, c'est important de donner un prix.
Ne m'écrasez pas là avec ça. Je sais pas, c'est la première fois moi que je suis dans un jury de.
Ah oui,
de
avoir un bon président.
Donc, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt bien tombé. Mais donc non, moi je vais pas penser à ça. J'ai vraiment envie de profiter, de savourer les films. Et puis à un moment. Attendre qu'il y ait une espèce de choc, de quelque chose qui se passe pour dire « Ah bah c'est ça, voilà, c'est ça qui m'a fait de l'effet. »
C'est la première fois de votre vie que vous allez voir autant de films en si peu de temps.
Mon Dieu, oui.
Mais c'est vrai.
Absolument. Oui,
mais oui. Il n'est pas un culte quand même.
Président, je ne dis pas ça.
Non, mais c'est vrai, 14 films en 7 ou 8 jours, oui.
C'est la première fois.
Oui, c'est la première fois.
C'est notre lot commun, mais vous,
parce que ce qui est très très frappant à Deauville, c'est qu'il n'y a pas simplement les films de la compétition. Il y a plein d'autres films qui passent un peu partout, et parmi eux, des documentaires. Passionnant. Ouais,
ouais. Et la femme créée à Hollywood.
Et la femme créée à Hollywood. C'est un 52 minutes. Hein, donc, et la femme, elle a droit qu'à 52 minutes.
Oui, mais les plus grandes réalisatrices ont été à Hollywood avant les années 20 et après, elles ont été éjectées par les hommes qui avaient besoin de travail et elles sont devenues assistantes et monteuses.
C'est vrai, ce que raconte ce beau document. Fait par deux femmes, d'ailleurs.
Oui. C'est horrible, ça. Il faut qu'on ait un geste de compassion, là, de solidarité.
Mais Frédéric Mitterrand, vous êtes cinéaste, donc vous connaissez l'impact d'un prix sur un film.
Je connais l'impact d'un prix sur un film, oui. Et je suis sûr que le Festival de Deauville a la possibilité de donner un grand prix et un prix du jury. Et il paraît que le prix du jury, on peut même le donner ex aequo. Donc ça veut dire on a deux prix.
Oh, c'est pas bien,
c'est un peu triché, ça.
Non. Moi,
c'est du saupoudrage.
Non, ex aequo, c'est pas mal.
C'est mou, c'est consensus. Mou, ex aequo, non.
Il y a un scoop, il y aura un ex aequo. On est sûr qu'il va y avoir
non,
un ex aequo.
Pas du tout, pas du tout.
D'autant qu'on a vu un film pour l'instant. Donc, on est sûr de ça.
Et en compétition,
il sera ex aequo.
Il sera ex aequo, oui. Oui. Il y avait un des membres du jury hier soir qui disait on pourrait donner.
Radeau,
oui, qui disait on pourrait donner le prix le premier jour, comme ça on resterait dans notre chambre pendant une semaine.
Pour terminer, parce qu'on va vous laisser bientôt, mais
déjà,
on a le temps d'en parler.
Et que Eric Elmosnino réclamait des cadeaux, parce qu'il sait que c'est la seule émission de radio qui donne des cadeaux. Absolument. À ses invités en donnant envie à ses auditeurs de les acheter.
Il a une bouteille d'eau.
Si vous connaissiez le western spaghetti, vous allez connaître le western Telline et Côte de Taureau avec le western Camargue. C'est un formidable bouquin sur
le western,
Camargue qui a existé avec Johnny, mais bien avant, dès 1910, il y a eu en Camargue des westerns au moment où le cinéma américain débutait lui aussi. Et c'est toute l'histoire de cette belle région française, la Camargue, vue à travers le cinéma. Vous disiez Johnny, il y a eu aussi Crin Blanc, il y a des tas de grands films qui se sont tournés en Camargue. Oh là là. Et ce superbe album Chez Actes Sud leur rend hommage.
Une photo de Tilda Tamar.
À la radio, c'est vachement bien.
La bombe argentine.
C'est que des gens que tu as connus, toi.
Oui, mais moi,
ah, ça marche.
Non, mais moi, j'ai un copain. Moi, j'ai un copain qui était l'amant de Tilda Tamar.
Non.
Si. Voilà. Quand elle avait déjà quelques heures de vol, et un jour, il est parti et elle lui a répondu « Tu ne comprendras jamais rien.
» Vous leur faites très bien. Donc je rappelle Ouest un Camargue chez Actes Sud.
Éric Elmosino, dernière question. Oui. J'ai cru comprendre que vous n'aviez jamais vu un chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle Citizen Kane, c'est vrai ?
C'est vrai.
Et pourquoi ?
Mais pourquoi ? Ça se trouve comme... Non, mais ça se trouve comme ça. Il y a des films que j'ai vus 7, 8 fois et Citizen Kane, j'ai jamais réussi à le voir en entier. J'ai
la dû
voir
les bouts par-ci par-là.
Et c'est comme Eisenstein, je crois. J'ai jamais vu de film d'Eisenstein. Enfin, oui, il y a des lacunes.
Non, mais il regarde toutes les émissions de télévision. Alors, donc, il lui sera beaucoup pardonné.
Il regarde beaucoup le sport. Non, mais c'est vrai.
Merci beaucoup à tous les deux, on vous libère parce que vous allez dans 5 minutes à une séance de premier film en compétition, Captain Fantastique.
Ouais,
merci Frédéric, merci Eric. Avant de retrouver celui qui a inspiré ce film, donc Infiltrator, Robert Mazur, notre BO de la semaine, un très grand film américain de 1969, Dustin Hoffman, John Voight, Macadam Cowboy, John Schlesinger. Ça tombe bien, le film ressort en salle le 14 septembre.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing up on the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me.
Infiltration, opération qui consiste à avancer le plus secrètement possible à l'intérieur du dispositif ennemi. Au cinéma, matériau dramaturgique fascinant, l'acteur joue deux rôles, en l'occurrence le grand Bryan Cranston, héros de Breaking Bad, qui dans Infiltrator incarne cet agent fédéral, Robert Mazur, qui va infiltrer sous le nom de Bob Musella le cartel de la drogue de Pablo Escobar. Le film a fait l'ouverture hier soir à Deauville. Bonjour Robert Mazur.
Good morning.
C'est vous le héros de la vraie vie qui inspire ce film de Brad Furman, d'après votre livre. Heureusement que nous faisons de la radio, puisque vous ne pouvez pas être filmé, sinon flouté et bien gardé. Et ma question est, vous êtes encore en danger ?
Je ne suis pas certain si on peut vraiment se rendre compte si jamais je ne suis pas. Mais effectivement, je dirais raisonnablement que oui. Mon visage et mon nom ne sont pas tellement importants dans cette histoire. C'est le sujet. C'est les sujets que cela soulève et toute l'importance que ça a pour le public. Et c'est ça vraiment qui est important.
Est-ce qu'un infiltré, c'est pas d'abord un acteur, au fond, comme fonctionnaire, vous étiez l'acteur le plus mal payé d'Hollywood?
Quand j'ai rencontré Bryan Cranston pour la première fois, je lui ai dit, et c'était sincère, que j'étais pas du tout un bon acteur en fait. Lui, il joue le rôle du père dans Malcolm in the Middle.
Trumbo,
il a joué Trumbo, Lyndon Johnson, il a interprété ces personnages.
Walter White. And those characters
et ces personnages sont tous très différents.
I went through undercover school training.
Et moi, je suis passé par l'école où on apprend à être caché et être en couverture. Et on nous apprend vraiment dans ces écoles à ressembler le plus possible aux personnes avec lesquelles on doit être. Et donc, on doit raconter finalement le moins de mensonges possible. Et donc, j'avais un personnage qui avait le même genre de provenance, qui avait lui aussi le même âge, même genre de parents, qui avait les mêmes, fait les mêmes études. On avait tous les deux ça, mon personnage et moi, en commun. Finalement, c'était que les petits détails qui faisaient une différence entre nous deux, mon personnage et moi, que lui soit un trafiquant et que moi j'étais un agent fédéral.
Sauf que si vous ratez une prise, c'est mortel.
Yes.
Et oui.
Pas plus que ça.
No more than that. It's a fact.
C'est un fait.
Vous avez eu peur pour votre vie?
I don't think so.
Je n'ai pas l'impression.
I think one of the things that you also
une des choses dont on se rend compte quand l'on on apprend ce métier, quand on est finalement dans ce monde-là, quand on est infiltré, c'est que les gens qui ont un sixième sens, je compare toujours ça avec quelqu'un qui a peur d'un chien sur un trottoir. S'il donne des signes au chien qu'il a peur, alors il sera le premier à être mordu. C'est un mécanisme de défense, de surtout pas montrer qu'on a peur. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments, bien sûr, où je n'ai pas eu peur, mais il faut éviter ça. Il y a eu des moments où, de façon figurée, que j'avais les cheveux dressés sur la tête et que j'aurais voulu courir, mais...
Le diable est dans les détails. Et c'est très important jusqu'aux chaussures que vous portez.
Les détails font la différence entre la vie et la mort.
Dans ce milieu, il y a des gens très cons, très intelligents. Est-ce qu'ils sont fascinants?
Fascinants, oui. Parce que je les ai vus sous toutes les coutures. Il y a toujours quelque chose derrière les apparences de ces gens-là. Et il y a des gens qui voient ça comme un business. Il y a des tueurs, il y a des gens qui sont prêts à tout pour la cocaïne. Et si jamais c'était un autre produit, ils pourraient vendre n'importe quel autre produit, finalement, eux. Ils sont brillants, intelligents, extrêmement bien éduqués.
Much more refined than an American,
et beaucoup plus
because they spoke multiple languages.
Raffiné que la plupart des Américains parce qu'ils parlent beaucoup de langues.
Or most Americans.
Enfin, que la plupart des Américains.
I spoke half Spanish.
Moi, je parle un peu d'espagnol.
But they are.
Mais ce sont des gens très intéressants en tant qu'individus. Et ils ne sont pas seulement comme Hollywood montre les gens comme Scarface, si vous voulez. Ils sont au-delà de ça. Ils sont plus des personnages comme Michael Corleone est dans Le Parrain. Plus que Scarface, en fait.
Ça veut dire plus calme, mais plus dangereux.
True.
Exact.
Yeah, these are people who
oui, ce sont des gens
make people die, but
qui
don't
tuent,
do it themselves.
Mais qui ne le font pas eux-mêmes.
They asked
ils demandent à moi ou à mon associé de tuer pour eux,
or to have people killed.
Ou de faire qu'il y ait des gens tués. C'est pas des gens qui se salissent les mains, c'est simplement leur esprit qui est devenu sale.
Mais Est-ce que le risque, c'est pas, je dis pas que vous l'avez eu vous, hein, mais est-ce que le risque, c'est pas le syndrome de Stockholm ?
C'est possible, et on en a beaucoup parlé de ça, on en parle en formation. Malheureusement, c'était pas ma seule opération d'infiltration, et j'en ai fait une autre après, encore 2 ans et demi de plus. Et pendant celle-là, une des personnes qui était un agent, et qui travaillait avec moi très proche, et je crois, a souffert de ce syndrome de Stockholm auprès des gens du cartel, et il a failli se faire tuer. Donc oui, nous sommes conscients, et bien conscients de ce problème potentiel.
Dans le film, il croise Escobar. Dans votre vie, vous l'avez croisé ?
Non, Gerardo Moncada. Non, Gerardo Moncada était le plus haut placé. Et à cette époque, il dirigeait 60% des opérations dans le monde.
C'est pas frustrant de ne pas rencontrer Dieu
ou le diable.
This is what I do. I'm an undercover narcotics agent. I sit with murderers and made men. And I lie. I lie my ass off.
Washington wants the biggest bust in history. Pablo Escobar and his main distributor, Roberto Alcano. Mazur, you're partnering with Abreu.
I think we've been doing this backwards. We've been following the drugs to get to the bad guys. What if we chase the money?
We need to find new undercover identities.
Hey, look at this, Falcone.
Look at the dates. Yeah. If you do the math, I'd be 77 years old.
That's about right, leathery and craggly.
Here we go. Bob Musella.
Welcome to a life of crime.
Merci Robert Mazur et Aaron Manning, son traducteur infiltrateur de Brad Furman, avec Bryan Cranston, sort mercredi prochain sur les écrans. Un Écossais à Deauville qui filme l'Ouest américain crépusculaire. Bonjour David Mackenzie.
Bonjour.
Vous présentez ici en compétition votre 9e film déjà, Comancheria, dans les paysages arides du sud-ouest américain du Texas. Deux frères organisent une série de braquages visant les agences d'une même banque pour éviter la saisie de leur propriété familiale. Des hold-up pour rembourser la banque, justement. À leur trousse, deux Texas Rangers. Un grand scénario qui mêle western, drame familial, film de braquage et constat politique bien sûr, puisque ces deux types transgressent la loi pour des raisons légitimes. On va écouter un extrait de Comancheria.
But you don't know this
wasn't
child support.
You must be out of my goddamn mind to ask you for help.
You want to get us killed? Huh? That's out of Midland's branch. That's not part of the plan.
Now we got to go back to the ranch and bury the car.
Fuck!
No, we do not. We're over halfway to Oklahoma.
I'm not driving a stolen getaway car to a fucking Indian casino. Just put us a goddamn day behind.
Well, I got us a day ahead this morning, so I guess we're even. You're welcome.
Fuck you.
David Mackenzie, je le disais, c'est un vrai film politique. C'est deux types qui font des hold-up pour rembourser les horribles banques. C'était ça le... C'est pas un scénario que vous signez vous, mais je suppose que c'est ça le nerf de la guerre au début pour vous.
Yeah, very much. There's a sense that there's a film
which is a
western.
Dès le départ, il y a un film qui est un western et qui est un film d'action, mais en dessous de ça, il y a vraiment un constat de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est un peu un cliché sur l'Amérique d'aujourd'hui, une photographie de l'Amérique telle qu'elle est.
On peut dire, on peut parler de criminalité rédemptrice.
Oui, c'est une expression que j'ai déjà utilisée. Difficile à dire si c'est vraiment ça. C'est peut-être que c'est une formule. Mais c'était mon sentiment, effectivement. Ce sont des gens qui font des choses mal, mais pour de bonnes raisons.
Qu'est-ce qui se passe au Texas ? On a l'impression que cette région appartient aux riches, qui éloignent les pauvres, qu'elle est tenue par les banques, par le pétrole, et qu'elle éloigne peu à peu les populations, et même les Comanches qui ne sont plus les rois de la plaine, ou les princes de la plaine.
There is a feeling,
il y a effectivement le sentiment d'une dépossession. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans le Midwest, et c'est la vraie réalité. C'est quelque chose que l'on a découvert en faisant des recherches. C'est un petit peu aussi ce qui se passe dans beaucoup de choses dans le monde. C'est un constat. Partout, beaucoup dans le monde, les gens perdent leur foi dans les institutions et dans ce qui devrait les rassembler.
Ce film tente aussi de briser une malédiction, puisque ces deux frères qui n'ont pas été gâtés par la vie vont essayer de casser ça et d'obtenir justice pour leurs enfants. Finalement, c'est un film aussi sur la famille.
Ah oui, un vrai film sur la famille. Ces deux frères, vraiment, bon, ils sont partis de la famille. Et puis aussi, ce qu'ils font est quelque chose de famille, une entreprise de famille. Et le but ultime de ce qu'ils font, c'est d'essayer de briser le cercle vicieux de la pauvreté qui court après eux, génération après génération. Et ça, c'est le cœur du film, je crois. C'est ce que dit Chris Pine, et c'est ce qui résume le film, je pense.
Ça fait quoi pour un cinéaste écossais de tourner un western? Je suppose que c'est le fantasme absolu quand on a vu beaucoup de films américains, et que ça crée une pression aussi énorme sur les épaules, non?
Oui, j'avais essayé de faire un western il y a quelques années, et j'avais l'impression, effectivement, je me sentais trop petit, vraiment pas capable de faire ça. Mais là, pour ce film, parce que c'est contemporain et parce que ça parle de sujets vraiment concrets, et là, j'ai l'impression que j'ai pu arriver à aborder le western sans être débordé par la mythologie. J'ai vraiment essayé d'être sincère et ouvert par rapport au scénario et de ne pas essayer de rajouter des bidules à moi. Some of the kind of western tropes, so we try, ou rajouter des clichés de western. Je pense que c'est quelque chose de tellement vraiment en contexte avec la réalité, c'est ça que j'ai voulu garder.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces grands espaces et avec cette lumière auquel je suppose vous n'êtes pas habitué en Écosse, et cette chaleur, cette sécheresse qui se sent d'ailleurs dans le film?
C'est tellement beau quand on arrive justement de l'étranger. Quelque chose d'extrêmement fort. On a en général ces plans où en général on a peu de choses à mettre, mais c'est tellement riche quand même, ce paysage, et expressif. Et ça donne envie de respirer. Et Jeff Bridges et moi, on se disait que vraiment ces paysages, c'est comme des paysages de mer, d'océan, tellement il n'y a rien. Et voilà, j'imagine que c'est pour ça que le film s'appelle en anglais Contre vents et marées.
C'est votre second film de production américaine. Est-ce qu'on a peur, quand on est un cinéaste écossais anglais, d'être happé par l'Empire américain?
J'ai pas peur. Je suis fasciné par la culture américaine. Et j'ai l'impression que ce qui était important là, c'était que justement j'étais un étranger et que j'allais pas être assimilé si rapidement. Je suis content finalement aussi de rentrer chez moi après avoir tourné le film.
Ce qui est impressionnant, c'est le contraste entre ce film-là et le précédent qui s'appelait Les Poings contre les murs, qui se passait dans un espace clos, une prison, dans lequel se retrouvaient un père et un fils. Est-ce que faire du cinéma, c'est savoir maîtriser l'espace, David Mackenzie?
C'est intéressant parce que là, ce sont deux espaces très différents. J'ai vraiment plaisir à filmer dans une prison parce que le vocabulaire visuel est très très restreint. Et il faut essayer finalement de jouer avec cette contrainte et essayer de faire un film avec ses couloirs, avec ses portes. Et ça a été un grand soulagement pour moi de pouvoir sortir de là et d'aller dans des espaces grands et larges. Et je pense que quelque part, chaque film est une réaction et un rebondissement par rapport au précédent. C'est la chance de faire quelque chose qui, dans l'espace que l'on montre, est vraiment différent.
Vous êtes réalisateur, mais j'ai l'impression que vous êtes devenu cinéaste avec Des Poings contre les murs. Vous sentez comme ça aussi, que votre carrière a démarré avec ça? Peut-être qu'on ne sait pas tout au début et que ça vient progressivement.
C'est en fait mon neuvième long métrage. Et j'ai fait un film qui s'appelait Young Adam. Et j'ai fait un film qui s'appelait Adam Foe. Et puis là, j'entendais la chanson de Midnight Cowboy, qui est un film que j'aime beaucoup. Adam Foe, c'était un peu ma version édimbourgeoise de Midnight Cowboy. Toy Boy aussi, qui était passé déjà ici dans ce festival. C'était mon dernier film américain, ça. Tout ça, ce sont des films différents, mais à chaque fois, une satire de la vie hollywoodienne, j'ai l'impression.
Alors, vous avez choisi un très grand acteur américain qui s'appelle Jeff Bridges, qui joue ce Texas Rangers qui rudoie un peu son collègue et qui est moitié comanche, moitié mexicain, une espèce de racisme quotidien, ordinaire, mais en fait il s'aime dans le fond. Et c'est Jeff Bridges finalement qui amène l'humour à ce film noir, non? Comme un film à lui tout seul.
Jeff est un acteur incroyable. Il est sérieux comme un pape. Il a de la gravité. Il fait ça depuis longtemps. Il apporte ça à ses personnages depuis longtemps. Et il peut être extrêmement brutal envers son collègue. Et d'abord, le public est invité à penser que c'est vraiment qu'il est raciste, qu'il est sincèrement raciste. Il est peut-être un peu, mais il est plein d'affection pour son collègue. Et j'ai voulu montrer à quel point leur relation est fluctuante et avance, et forte et amicale. En dessous, il y a tellement de choses entre beaucoup d'affection. Et il y a du racisme peut-être un peu, mais aussi quelque chose d'intéressant entre eux. Et dans le voyage que le film leur propose, finalement, leur amitié se trouve à chaque fois renforcée.
C'est parce qu'il est profondément sympathique qu'on accepte cette brutalité, non ?
C'est un amour vache. Mais dans Les Pointes dans les Murs et dans ce film, j'essaie d'aborder le racisme, on touche ce sujet-là et j'essaie de bouger un peu les choses, de montrer les choses de façon vivante.
Juste une question, vous pensez qu'il est plus important aux États-Unis ou en Écosse, votre pays ? Le racisme. Le racisme est plus fort en Amérique ou en
Scotland ? Je pense que
le racisme est un sujet très très grand et important en Amérique. Ailleurs aussi, mais je pense qu'en Amérique, c'est un sujet vraiment très important.
Alors, c'est un polar, c'est un western, comme le veulent les lois du genre. Il n'y a pas de femmes ou pas beaucoup, mais c'est elles, en général, qui apportent l'humour, la distance et qui surtout font que ces hommes sont tous des petits-enfants.
C'est une histoire d'homme, c'est sûr. Mais il y a des personnages féminins très forts dans le côté picaresque de leur rencontre, de leur voyage. Ils font des rencontres, certaines femmes, et chaque femme est vraiment un personnage et aussi un élément de ce grand paysage qu'est le Texas.
Est-ce que le film n'est pas dédié à vos parents à la fin ? J'ai eu l'impression...
Tout à fait. Tous les deux sont morts pendant le tournage et j'ai voulu mettre effectivement un carton à la fin. Et j'étais vraiment triste qu'ils ne puissent pas voir ce film. Je voulais vraiment qu'ils le voient, ce film.
Finalement, c'est encore un film sur la famille et ça, c'est votre côté très américain, David Mackenzie.
Sans doute. Effectivement, je suis chef de famille et c'est quelque chose qui me touche. Je me sens l'obligation de protéger ma famille.
Vous allez continuer votre carrière en Amérique ?
Je ne sais pas. J'ai des projets en Écosse, en Europe, et quelques projets en Amérique. Mais là, je vais faire un pilote pour la télévision américaine la semaine prochaine. C'est l'histoire de grévistes pendant la Grande Dépression. Et là encore, il y a une histoire de famille. Et encore une fois, je vais pouvoir parler d'agitateurs et de gens qui veulent briser la grève et une histoire de deux frères.
C'est un format qui vous intéresse, la série, un format dramaturgique qui vous intéresse ?
Je crois que le cinéma, c'est mieux que la télé.
Les gens disent que c'est un âge d'or pour la télé. Je trouve que c'est pas mal, mais moi, je préfère vraiment le cinéma.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le cinéma ?
Je crois que l'engagement qu'on y met, la qualité des choses... Quand on se concentre sur un film, et pas seulement quand vous êtes en train d'essayer d'attraper votre public pour le maintenir, le garder pendant plusieurs épisodes, je pense que ça limite finalement vos possibilités de réalisateur.
Comancheria, un grand film en compétition ici à Deauville. Musique, s'il vous plaît, de Nick Cave et Warren Ellis. Merci beaucoup. On va écouter Rihanna avant de parler des sorties de la semaine, Laurent.
Oui. Ah merde, il est pas en concours.
This whiskey got me feeling pretty. So pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night. And I know I could be more creative and come up with poetic lines. But I'm tired of obsessions and I love you. Is the only thing that's in my mind. You take me. Come over, let's borrow a drink, babe. I hope I ain't calling you too late, too late. You light my fire. Let's stay up late and smoke a J. I wanna go back to the old way. But I'm drunk and sit with a full ashtray. With a little bit too much to
disiez si joliment, Laurent.
Oui, un peu hors micro, il faut bien le dire. Voilà, c'est bon, les alias.
N'est pas en compétition à Deauville, mais en exposition.
Moquez-vous.
Pas du tout. On va parler parce que c'est du cinéma et que c'est sorti mercredi,
mais oui,
de quatre films. On va commencer par Nocturama de Bertrand Bonello. Paris, un matin, une poignée de jeunes de milieux très différents, chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils suivent un plan, effectivement, faire exploser des bombes dans les coins stratégiques de Paris et se retrouvent après dans un grand magasin. Et là, un autre film commence la nuit. Comment faire du cinéma avec de la politique, mais sans aucun discours politique? Pourquoi ils commettent ces actes? Bonello ne s'intéresse pas au pourquoi, seulement au comment d'une jeunesse innocente, fragile et en colère, à travers une mise en scène inspirée, et notamment dans ce premier film, dans le film, qui enchaîne avec fluidité ses parcours mystérieux dans le métro parisien. L'autre film, Nocturne, moins saisissant, plus appuyé dans la métaphore de jeunes révoltés enfermés dans un temple dans la consommation, dont ils finissent par succomber, victimes eux-mêmes de ce consumérisme qu'ils voulaient justement tuer quelques heures plus tôt. Des jeunes objets de cinéma plutôt que réelle révolte, Laurent.
Oui, ce qui pose un problème dans le contexte actuel. Alors, il faut dire que le film a été fait avant, ou préparé avant, que les événements abominables, tragiques du terrorisme ne viennent en quelque sorte à la fois, d'ailleurs, rendre le film actuel et le dévaloriser totalement. C'est-à-dire que, évidemment, l'intrusion du réel à ce point-là, d'un réel aussi dramatique, fait que ce film devient pauvre dans son discours, que les personnages n'existent pas, qu'ils sont vides de sens. Et ça, c'est un vrai problème, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se trouve pas dans les temps actuels de terrorisme en perte ou en manque de sens de ce qui se passe. Du sens, il y en a, et ô combien. Et Bonello, avec cette espèce de dandisme qui lui appartient, qui peut donner de belles choses quand il s'intéresse, par exemple, à Saint-Laurent, et qu'on a beaucoup aimé ici, de toute évidence, là, ça devient un peu gênant, là, il y a un malaise, et quand l'acmé du film, le point le plus important, c'est effectivement le massacre organisé de ces jeunes par des CRS qui font en l'occurrence leur travail, mais comme rien n'a été dit sur ces jeunes, rien n'a été montré de leur motivation, rien n'a été dit aussi de leur singularité peut-être, eh bien le malaise devient extrêmement grandissant à la fin du film, et on est un petit peu embêté de dire ça parce que Bonello est assurément un grand cinéaste, mais pour le coup, la machine tourne au moins à vide.
Divine, caméra d'or au dernier festival de Cannes, ça on l'a bien entendu, la caméra d'or de Houda Benyamina. Sur scène, Divine, dans un ghetto où se côtoient trafic et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite, soutenue par Maimouna. Sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée, mais sa rencontre avec un jeune danseur va bouleverser son quotidien. Le portrait d'une jeunesse que la réalisatrice connaît bien, on pourrait dire de bruit et de fureur, pour paraphraser un autre film de Brissot, celui-là pourrait-on dire donc une démarche sincère. C'est sûr, non exemple de cliché, Laurent, ouais. Un film parfois mal rangé, défaut de jeunesse, mais doté d'une sacrée énergie et tenu par deux jeunes actrices, notamment Oulaya Amamara et Déborah Lukumuena.
Oui, c'est vrai. Alors, il s'instaure dans le cinéma français un genre. C'est le film de banlieue. Vous savez, on a eu Dipane, par exemple, de Jacques Audiard, enfin, et puis d'autres comme ça. Ou le plus réussi, à mon sens, Bande de filles de Céline Sciamma, ouais. Auquel on pourrait beaucoup penser en regardant Divine. Alors, vous le disiez, c'est vrai. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'allant, il y a beaucoup d'enthousiasme. Au fond, quoi? Le discours principal, c'est que, par une sorte de fracture sémantique dans le cinéma français, le clito vient de remplacer les couilles, puisque d'après la réalisatrice, hein, on a dû clito, on a pas de couilles, on a plus de couilles. Bon, c'est un peu léger, quoi, en même temps. Si vous voulez, si c'est juste ça, or, il me semble que c'est le discours que véhicule le film, on aimerait, surtout dans le contexte actuel, où décidément la banlieue devient très prégnante, où évidemment, il y a beaucoup de problèmes se concentrent autour d'elle, on aurait aimé que, au-delà de l'enthousiasme, au-delà de l'énergie, au-delà de la niaque, il y ait autre chose, peut-être un vrai, enfin, regard sur la banlieue, ou les banlieues, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Voilà, et ça, le film n'y répond pas.
En revanche, à côté des bars de cité, elle a quand même filmé des bidonvilles.
C'est vrai, c'est une dimension qui, là, ouais. Effectivement, est nouvelle, on va en dire en quelque sorte. Et là, pour le coup, c'est très intéressant.
Fronteras, c'est un film espagnol de Miquel Rueda, portrait de deux jeunes garçons. Rafa, un adolescent espagnol donc de 14 ans, presque comme les autres, il va au lycée, traîne avec ses amis, sort en boîte. Et Ibrahim, marocain, illégal sur le territoire, qui vient d'apprendre qu'il sera expulsé dans quelques jours. Deux formes d'exclusion traitées dans ce film, Laurent, l'immigration clandestine et l'homosexualité.
Voilà, ce sont les deux exclusions, les deux marginalités qui se rencontrent. Alors, on peut trouver que c'est manichéen, on peut trouver que c'est un peu trop empreint de bonnes intentions et d'un message, sinon positif, du moins bienveillant sur ces deux personnages. Mais ça fonctionne, parce que justement, les deux acteurs incarnent vraiment très très bien cet antagonisme, d'abord, et puis finalement, ils en viennent, en quelque sorte à fédérer leur marginalité, et à deux on est plus fort, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'exclusion dont on est la victime, et c'est pour ça que c'est un film néanmoins qui, précisément dans le contexte actuel, a une bonne dose de politique et dit des choses, alors là oui, intéressantes sur effectivement la marginalité, l'exclusion, la façon dont l'adolescence peut être à la fois ce rite de passage et ce moment très très compliqué.
On va terminer avec un film français, le dernier, réalisé par Pascal Chomeil, disparu en août 2015, ça s'appelle Un petit boulot, une comédie noire, inspirée d'un livre de l'américain Ian Levinson et adaptée, s'il vous plaît, par Michel Blanc, qui joue également dans ce film. C'est l'histoire de Jacques, qui habite une petite ville. Jacques, c'est Romain Duris, dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie, les dettes s'accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, c'est Michel Blanc, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers. C'est un polar social, drôle, absurde, immoral.
Le film s'appelle Un petit boulot, c'est un petit film, mais en même temps c'est bien les petits films qui se revendiquent comme tels, et je crois que le propos de Michel Blanc, il est là. Il se situe quoi? Dans une petite filiation, Corneau, Blier, Audiard, c'est-à-dire le polar français avec plein de bons mots.
Moins
radical pour certains, pour Audiard c'est vrai, mais en même temps il y a cette sorte de plaisir de la langue qu'on retrouve, pourrait retrouver chez Bertrand Blier, que Michel Blanc, dans lequel il excelle manifestement, et puis il y a un vrai goût des acteurs, ça c'est sûr, parce que il faut ajouter aussi Gustave Kervé Laverne et Alex Lutz, formidable en espèce de ganache bureaucratique. Donc finalement, ça marche. Moi, je trouve que ça marche bien. C'est-à-dire que si le contrat, c'est de nous faire passer un bon moment, comme on est capable de passer un bon moment en lisant un petit polar sur la plage, eh bien, hors plage, dans une salle de cinéma, on passe un bon moment avec ce petit boulot de Pascal Chomel.
Vous êtes vachement gentil en début d'année.
Mais oui, écoutez, j'ai changé, l'été m'a transformé. Ça ne durera pas.
Moi, je voudrais juste rappeler quand même les deux grandes sorties de la fin de l'été qui sont
Rester vertical d'Alain Guiraudy, bien entendu.
Il faut absolument aller voir ce film-là. Bien sûr, très bien radical,
sûr.
Lui.
Mais oui, mais ô combien intéressant et ô combien novateur aussi. Et puis, j'imagine que vous voulez parler de Sierra Nevada, le film roumain.
Non, et non. De Tony Erdmann.
Oui, alors ça, c'est votre problème.
Tony Erdmann, de Marraine à deux, le film allemand. Et je vous conseille d'aller le voir. Oui. Ne soyez pas apeuré par la durée du film. C'est une merveille, une découverte de cette jeune réalisatrice.
Donc allez voir Sierra Nevada, le film roumain qui est sorti aussi.
Bien voilà. Sûr. Nous étions en direct. Vous voyez, ça commence bien. Nous étions en direct de ce 42e festival américain de Deauville qui se clôturera dimanche prochain, avant-première compétition. Mais aussi et notamment des hommages à Stanley Tucci, James Franco et des docs. On en a parlé, Laurent et la femme créa Hollywood, incroyable doc.
Par deux sœurs françaises d'ailleurs, je crois, qui font un très très beau doc. Oui, pour dire que y a un moment où Hollywood a été construit. Elles le disent, par les exclus du système, les femmes et les juifs. Et que le système a progressivement au moins fait partir les femmes parce que les hommes voulaient prendre leur place. C'est une histoire vieille comme le monde.
Merci aux équipes techniques. On retrouve toutes les infos
sur franceinter.fr. Bien sûr, notre site page, on aura tout vu, les livres, les films dont on vous a parlé, les musiques aussi.
Deux invités la semaine prochaine, Vincent Lacoste et Jean-Pierre Mocky,
Et on remercie encore le Normandie Barrière Deauville de nous avoir si bien accueillis.
Il nous a laissé sa voix avant de partir pour le premier générique de la saison, s'il vous plaît, Frédéric Mitterrand.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par David Jakubowicz. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Frédéric Mitterrand, j'y étais.